Vous écoutez On lit pour vous.
Une piste pour éradiquer le VIH. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 1er décembre 2025 dans la presse. Des chercheurs montréalais dévoilent qu'une molécule pourrait éradiquer le VIH. Cette possibilité permettrait de guérir les patients qui doivent actuellement prendre des médicaments pour contrôler le virus pour le reste de leur vie. Qu'est-ce qui a été découvert? On enlève au virus sa cape d'invisibilité, explique Andrés Finzi, virologue à l'Université de Montréal. Il est l'auteur principal d'une étude publiée le 1er décembre 2025 dans la revue Nature Communications. M. Finzi avait en 2022 élucidé comment le VIH devient invisible pour le système immunitaire humain. Le virologue montréalais travaillait sur ce mécanisme depuis 2014. Après sa découverte en 2022, M. Finzi avait essayé diverses molécules qui enrayaient le mécanisme moléculaire du VIH, lui procurant cette cape d'invisibilité contre le système immunitaire du patient. Mais elle ne fonctionnait pas à sa satisfaction. En 2023, une équipe américaine a publié une étude sur une molécule plus puissante, dit M. Finzi. Mais on ne savait pas pourquoi elle est plus puissante contre la cape d'invisibilité. Nous montrons maintenant pourquoi et confirmons que, dans un modèle animal, elle est très efficace pour éliminer les cellules infectées où le virus se cache. M. Finzi a travaillé avec des chercheurs d'une demi-douzaine d'institutions américaines, dont Harvard et Yale. Il est important de comprendre le mode d'action d'un médicament, notamment parce que cela permet de l'améliorer et potentiellement d'en trouver d'autres. Pourquoi est-il important d'éradiquer le VIH? Les médicaments anti-VIH actuels permettent de réduire la charge virale jusqu'à être indétectable, ce qui assure une vie normale aux patients. Mais ils ne peuvent pas arrêter de prendre les médicaments. Sinon, le virus, qui reste caché même quand il est indétectable, recommence à se reproduire et à rendre le patient malade. C'est pour cette raison que les patients atteints du VIH ne peuvent être complètement guéris. Empêcher le VIH de devenir invisible pour le système immunitaire humain pourrait donc mener à la guérison, le Graal de la recherche sur le sida. Éradiquer le VIH là où il se cache dans le corps humain, ça serait une révolution, dit M. Finzi. Est-ce qu'il y a d'autres avenues pour éradiquer le VIH? Il y a plusieurs programmes de recherche, mais aucun n'est plus avancé que celui de M. Finzi. Certaines approches visent à renforcer le système immunitaire pour qu'il détecte les cellules où le VIH se cache, malgré sa cape d'invisibilité, ou alors altérer les sections du virus qui lui permettent de devenir invisible. S'il est privé de sa cape d'invisibilité, le VIH deviendrait vulnérable au système immunitaire humain ou à des médicaments antiviraux. Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape est de faire les mêmes essais cliniques avec des macaques, puis des humains. Même si tout fonctionne parfaitement lors de ces essais cliniques, il n'y aura pas de médicaments basés sur cette molécule avant 5 ans. L'effet Trump. Les coupes américaines dans l'aide internationale ont déjà un effet, selon un rapport publié fin novembre par ONU-SIDA. Ce rapport fait état d'une baisse de 64 % du nombre de personnes à risque prenant des médicaments anti-SIDA pour éviter d'être infectées au Burundi, de 38 % en Ouganda et de 21 % au Vietnam. Le rapport dit que 75 % des fonds internationaux disponibles pour la réponse au VIH ont disparu dit Madeleine Durand, une épidémiologiste de l'Université de Montréal qui travaille sur le VIH. C'est une catastrophe. Le New York Times a de plus rapporté que le département d'État a interdit à ses employés de promouvoir publiquement la Journée mondiale du sida, une commémoration qui date de 1988. En savoir plus, source, Agence de la santé publique du Canada. 0,25% proportion des hommes canadiens qui sont porteurs du VIH. 0,08% proportion des femmes canadiennes qui sont porteuses du VIH. C'était une piste pour éradiquer le VIH, un texte de Mathieu Perrault, paru le 1er décembre 2025 dans la presse.
Y a-t-il trop de plans d'intervention dans les écoles? Un texte de Léa Carrier, paru le 15 octobre 2025 dans la presse. Un élève sur quatre a un plan d'intervention au Québec. Au secondaire, un sur trois. Plus de mesures d'aide aux élèves impliquent plus de travail pour les enseignants qui se demandent de plus en plus si cette approche est la bonne. Le Québec champion des plans d'intervention. Avant, on enseignait à un groupe. Aujourd'hui, on enseigne à des individus. Après bientôt 30 ans à enseigner le français au secondaire, c'est l'image qui vient à l'esprit de Valérie Gagnon. Le nombre d'élèves avec des plans d'intervention a décuplé dans sa classe ces dernières années. Aujourd'hui, il n'est pas rare que le tiers de ces groupes ait droit à des mesures d'aide personnalisées. Grossir la police de caractère sur la feuille d'exercice de l'un, enlever les images distrayantes sur la copie de l'autre, c'est devenu une charge mentale à temps plein. « J'ai l'impression qu'on est rendu au bout de ce qu'on peut faire comme enseignant », dit Valérie Gagnon. Une hausse marquée. Au Québec, un élève sur quatre a un plan d'intervention. Leur proportion dans la composition des classes ne cesse d'augmenter, particulièrement au secondaire. Si le réseau scolaire comptait 207 000 élèves en difficulté en 2015-2016, il en dénombrait 281 000 en 2024-2025. C'est une hausse de 36 % en moins de 10 ans, alors que le nombre total d'élèves a augmenté de 17 % au cours de la même période. La presse a parlé à une quinzaine de professionnels de l'éducation pour tenter de comprendre ce que cache l'explosion des plans d'intervention. Tous s'entendent pour dire qu'il y en a trop. Les enseignants se disent débordés, épuisés, pris à gérer des groupes de plus en plus hétérogènes. Plusieurs estiment qu'il est temps de revoir la politique de l'adaptation scolaire encadrant l'application des plans d'intervention qui datent de plus de 25 ans. Les élèves ne sont pas le problème, croit le consultant en éducation François Massé, qui a travaillé avec plus de 1000 écoles au Québec et dans le reste du pays. C'est le système éducatif qu'il faut penser, argue-t-il, à commencer par les services aux élèves en difficulté. Je vais dans les écoles, je vois l'enseignante avec 24 élèves, 16 avec un plan d'intervention. Elle a une couleur de peau que je n'ai jamais vue de ma vie et elle veut laisser la profession. Elle aurait bien raison de le faire, lâche-t-il. Une approche individuelle. Le plan d'intervention est l'un des socles de la politique de l'adaptation scolaire québécoise qui formule les grandes orientations en matière de soutien aux élèves en difficulté. Il vise à favoriser leur réussite scolaire en fixant des objectifs et en mettant en place des mesures d'aide pour les atteindre. Surtout, il s'inscrit dans une approche individuelle. Les mesures d'aide sont personnalisées selon les besoins particuliers de chaque élève. Le droit à davantage de temps pendant les examens ou l'accès à un ordinateur en classe sont des exemples connus, mais il en existe une foule d'autres. Le ministère de l'Éducation distingue les élèves ayant un plan d'intervention en deux catégories. ceux vivant avec un handicap, qu'il soit moteur ou intellectuel, et ceux présentant des difficultés d'apprentissage ou d'adaptation, dyslexie, troubles de l'attention et du comportement, etc. Le Québec est le champion du plan d'intervention, souligne Mélanie Tremblay, professeure à l'unité départementale des sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Rimouski. Pourquoi? Des facteurs multiples. Pour certaines personnes, si l'élève n'est pas parfaitement tranquille, c'est qu'il a quelque chose. Et ce quelque chose, il faut le régler avec un plan d'intervention. Directeur d'une polyvalente de la banlieue de Montréal, Daniel, prénom fictif, remarque qu'il n'est plus utilisé comme une mesure exceptionnelle réservée aux cas les plus lourds. C'est devenu un automatisme, observe celui qui a demandé l'anonymat parce qu'il n'était pas autorisé par son employeur à parler aux médias. Un plan d'intervention peut être très bénéfique, précise-t-il, mais pour certains élèves et dans certaines circonstances. Sur 1800 élèves, j'en ai à peu près 550 avec plan d'intervention. Sur 550 plans d'intervention, j'en ai peut-être 50 avec des objectifs mesurables, évaluables, estime Daniel. Le reste, j'ai vu tout et n'importe quoi. Les écoles produisent parfois des plans d'intervention de façon prématurée, souligne la professeure au département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage de l'Université Laval, Nancy Gaudreau. Ceci devrait être le dernier palier d'intervention. Les interventions universelles ou ciblées qui répondent au plus grand nombre devraient d'abord être privilégiées, rappelle-t-elle. Or, les écoles manquent trop souvent de ressources ou utilisent mal les ressources existantes pour le faire. Dans les écoles où les mesures universelles sont de qualité, on a moins besoin de mesures supplémentaires, affirme-t-elle. Des exemples d'interventions universelles ou ciblées, selon les experts consultés pour ce reportage, varier les façons d'enseigner, alterner les activités plus calmes et plus actives, offrir des ateliers de gestion de la colère pour un sous-groupe d'élèves qui présentent des comportements d'agressivité ou un camp d'été pour les élèves ayant des difficultés en français. D'après la littérature scientifique, la part d'élèves nécessitant des mesures individualisées se situerait seulement entre 1% et 9%, soutient Mme Gaudreau. Des parents plus exigeants. Contrairement à ce qu'on croit généralement, un diagnostic officiel n'est pas requis pour avoir droit à un plan d'intervention. C'est la direction de l'école qui décide si un élève en a besoin, en collaboration avec l'enfant, le personnel scolaire et les parents. Selon plusieurs, ces derniers ont de plus en plus tendance à mettre de la pression pour que leur enfant bénéficie de mesures d'aide en classe. Aller à l'école et demander un plan d'intervention, c'est devenu une mode, affirme Daniel. Quand il travaillait dans une école primaire il y a quelques années, une mère lui a demandé de mettre en place un plan d'intervention pour aider son enfant à être admis à l'école privée. Son enfant n'était pas en train d'échouer. Elle disait qu'elle voulait sa réussite optimale, s'exclame le directeur. Selon Valérie Gagnon, les parents demandent un suivi plus serré de leur enfant et s'attendent à davantage de rétroactions qu'auparavant. J'ai toujours peur de recevoir des plaintes de parents parce que je n'ai pas honoré un plan d'intervention, dit-elle. Cette pression d'être en tout temps attentive aux premiers signes de difficulté chez ses élèves est récente, dit-elle. Quand j'ai commencé à enseigner, on n'était pas sensible. Là, on est extra-sensible, déplore celle qui enseigne dans un collège privé de Montréal. Changement de paradigme. Professeure à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal, Mélanie Paré rappelle qu'on repère beaucoup mieux les troubles d'apprentissage et d'adaptation qu'il y a 20 ans. Avant, un élève qui n'était pas très doué à l'école, personne ne s'en faisait avec ça. Mais ces élèves étaient dans les classes, souligne-t-elle. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Le moindre écart par rapport aux attentes est noté, relevé, remarque Mélanie Tremblay. La hausse des plans d'intervention n'a donc rien de surprenant. L'école québécoise gère par rapport à la différence, résume la professeure. Selon elle, l'école québécoise est en train de devenir un beau laboratoire à ciel ouvert. Quand on sera rendu à 80 % des élèves avec un plan d'intervention, on aura fait la démonstration que la norme n'existe pas ou pratiquement pas, dit-elle. Plutôt que de reconnaître la diversité comme une normalité, il y a cette vision qu'il faut mettre des étiquettes. Tant qu'on sera dans cette logique, on nourrit la bête. Vous écoutez, y a-t-il trop de plans d'intervention dans les écoles? Un texte de Léa Carrier, paru le 15 octobre 2025 dans La Presse. Plus de clés pour comprendre la hausse du nombre de plans d'intervention. Des incitatifs financiers. Certains volets du financement des centres de services scolaires considèrent le nombre d'élèves avec un plan d'intervention. Selon la professeure à l'unité départementale des sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Rimouski, Mélanie Tremblay, cet aspect financier peut avoir contribué à la hausse du nombre de plans d'intervention. On est dans une culture de données au Québec. Pas de données, pas de budget, pas de services. Est-ce qu'on en veut aux directions de maintenir autant de plans d'intervention? Elles n'ont pas le choix. C'est ça aussi qu'on n'ose pas nommer, souligne-t-elle. Dans la convention collective de la Fédération autonome de l'enseignement, des compensations salariales peuvent également être offertes aux enseignants lorsque leur groupe compte un certain nombre d'élèves avec un plan d'intervention. Voir plus loin. Réviser seulement les services en adaptation scolaire, c'est insuffisant, estime Mélanie Paré, professeure à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal. Tous les maux de notre système d'éducation ne se résument pas à l'augmentation des plans d'intervention, souligne-t-elle. Elle cite l'école à trois vitesses qui contribuerait, selon plusieurs, à la concentration des élèves en difficulté dans les classes ordinaires. Dans le meilleur des mondes, c'est l'ensemble du système éducatif qui devrait être repensé. Une consultation provinciale demandée. C'est comme si on avait une politique de vaccination qui datait de 25 ans. Pour le psychologue et spécialiste de la réussite scolaire Égide Royer, il est plus que temps de réviser la politique de l'adaptation scolaire québécoise adoptée en 1999. Année après année, le ministère de l'Éducation investit des sommes colossales pour soutenir les élèves en difficulté. 3,7 milliards en 2023-2024. Et, année après année, la situation semble s'empirer. Manifestement, quelque chose ne fonctionne pas, soulève M. Royer, et injecter des millions de plus n'y changerait probablement pas grand-chose. Vous me demanderez si ce serait bien de mettre un demi-milliard de plus dans les élèves en difficulté, et je vous répondrai non, dit Égide Royer. Il demande à Québec de lancer une consultation provinciale pour faire un état de la situation et recenser les meilleures pratiques pour soutenir les élèves en difficulté. Orthopédagogue dans le réseau public, Nathalie, prénom fictif, travaille auprès d'eux depuis plus de 20 ans. Ce qu'elle pense de la multiplication des plans d'intervention? On l'a échappé bien comme il faut, lâche-t-elle. Comme elle, la plupart des professionnels du milieu scolaire à qui nous avons parlé ont demandé l'anonymat, craignant des représailles de leurs employeurs. Tous travaillent au secondaire. Dans les écoles secondaires publiques, un élève sur trois a un plan d'intervention deux fois plus qu'il y a 20 ans. Un enseignant peut facilement se retrouver avec 12, 13, 14 plans d'intervention dans un même groupe. Je ne sais pas où ça a déraillé, mais à un moment donné, on s'est mis à faire des plans d'intervention pour toutes sortes de difficultés moins sévères, laisse tomber Nathalie. Ce n'est pas sans conséquence, souligne-t-elle. Avoir plus de plans d'intervention implique plus de travail et, paradoxalement, moins de temps avec les élèves. Ce n'est pas juste de remplir un papier, ça vient avec toute une démarche, des appels avec les parents, des rencontres avec les élèves. ça prend un temps fou à faire. C'est ça que je déplore. Je fais plus de paperasse qu'apporter du soutien direct aux élèves, explique l'orthopédagogue. Aujourd'hui, les plans d'intervention servent surtout à calmer l'anxiété des élèves et de leurs parents, croit-elle. Ils sont devenus un pansement. J'ai plein d'élèves avec des plans d'intervention, mais qui n'ont pas de soutien, illustre-t-elle. Des mesures variées. Les enseignants critiquent non seulement le nombre de plans d'intervention, mais aussi leur contenu, lequel leur en fait voir de toutes les couleurs. Voici quelques exemples de mesures d'aide incluses dans des plans d'intervention qui nous ont été rapportés. Permettre à un élève de sortir de la classe quand il le souhaite pour aller marcher. Fournir à l'avance à un élève très timide les questions qui seront posées en classe. Donner certaines responsabilités en classe à un élève pour qu'il reste engagé durant le cours, comme distribuer les copies ou laver le tableau. Permettre à un élève de répondre aux questions d'un examen à l'oral plutôt qu'à l'écrit. Même une mesure relativement bien intégrée dans les écoles comme l'accès à du temps supplémentaire pendant les examens peut devenir un défi logistique. On le donne comment? À quel moment? À quel endroit? Sur ton heure de dîner pendant que tu manges? Énumère Anna, prénom fictif, enseignante au premier cycle du secondaire. Chaque rentrée, elle doit faire le ménage dans les plans d'intervention des élèves arrivant du primaire. On en a beaucoup trop pour de petits détails, observe-t-elle. Selon elle, les enseignants ne peuvent pas faire plus que ce qu'ils font déjà. Le point de rupture a été atteint. Comment on en est arrivé là? Se demande Anna. On dirait que les directions et les parents pensent que c'est la recette miracle qui va sauver leur enfant. Une béquille. Certains enseignants se demandent même si le recours prolongé au plan d'intervention pourrait nuire aux élèves. De l'avis de Marie-France, prénom fictif, ils sont devenus une béquille. Quand les élèves ont le droit à tous les moyens, ils ne cherchent plus à s'en défaire, croit l'enseignante au secondaire. On offre des ateliers d'aide, les élèves ne viennent pas. Mais ils veulent avoir droit à tout en classe, dit-elle. Professeure à la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal, Mélanie Paré est d'accord qu'on n'en fait pas assez pour fermer les plans d'intervention. « On ne sait pas comment passer à autre chose », remarque-t-elle. Si l'élève a développé des moyens pour maîtriser son comportement ou rester concentré en classe, a-t-il encore besoin d'un plan d'intervention? Oui, c'est bien de mettre en place des mesures d'aide, mais il faut développer le sentiment de compétence chez l'élève. On veut responsabiliser la personne, abonde Mélanie Tremblay, professeure à l'Université du Québec à Rimouski. C'était « Y a-t-il trop de plans d'intervention dans les écoles? » Un texte de Léa Carrier, paru le 15 octobre 2025 dans La Presse.
Création d'un institut pour former ceux qui aident les victimes de violences conjugales. Un texte de Stéphanie Marin, publié le 17 novembre 2025 dans Le Devoir. Un nouvel institut voit le jour au Québec afin d'épauler la lutte contre la violence conjugale. Il se veut la courroie de transmission des meilleures pratiques et vise à outiller tous ceux qui sont appelés à intervenir, d'une manière ou d'une autre, auprès des victimes. La création de l'Institut ECHO a été annoncée lundi par le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales, le Regroupement. Il est né, entre autres, de ce constat. Ceux qui travaillent dans des organismes d'aide ont été en contact avec les victimes dans 76 % des événements de violences conjugales ayant causé des décès, selon le Comité d'examen des décès liés à la violence conjugale. Autrement dit, dans près de 8 cas sur 10, quelqu'un a eu une occasion d'agir, signale le regroupement, qui souhaite saisir chaque occasion pour tendre la main aux victimes et ainsi renforcer leur filet de sécurité. Il suffit parfois d'une simple question ou d'une écoute attentive pour changer la trajectoire des femmes victimes de violences conjugales. En étant à leur contact, les professionnels ont une posture privilégiée pour faire une différence. Soutien par voie de communiqué, Annick Brazo, présidente du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales. ECHO va ainsi offrir des formations, des conférences avec des experts et d'autres outils destinés aux professionnels. Il se veut aussi un carrefour d'échanges pour ceux qui œuvrent auprès des victimes. Il y a des dizaines de maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences au Québec, dont les intervenants développent au jour le jour des habiletés pouvant bénéficier à toutes. L'Institut ECHO est ainsi né d'une conviction forte du regroupement. Pour mieux soutenir les femmes et les enfants victimes de violences conjugales, il faut d'abord soutenir celles et ceux qui les accompagnent. Dans sa première phase, l'Institut cible quatre pôles : le milieu communautaire, le milieu judiciaire, le milieu de la santé et des services sociaux, ainsi que les employeurs et syndicats. Par exemple, une formation est disponible pour les infirmières, qui sont parfois le premier contact avec une victime et potentiellement leur porte d'entrée pour obtenir de l'aide. Une autre vise les avocats en droit de l'immigration, leur offrant des outils pour aider les femmes immigrantes victimes de violences. Besoin d'aide? Si vous êtes victime de violences sexuelles, vous pouvez contacter un centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, CALAX, près de chez vous, ou appeler Info-Aide Violences Sexuelles au 1-888-933-9007. C'était « Création d'un institut pour former ceux qui aident les victimes de violences conjugales ». Un texte de Stéphanie Marin, publié le 17 novembre 2025 dans Le Devoir.